Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons notre série « Le message de la croix jusqu'au triomphe final ». Nous en sommes à l'étude numéro 13 et le titre sera « Le jugement de l'Antichrist ». Le brillant apogée de l'humanité est en même temps le point de départ de sa chute. Daniel 2, versets 34 et 35. C'est le Seigneur lui-même qui exécute le jugement. Premièrement, nous avons la grande tribulation. Les terreurs de ce jugement ébranlent toute la terre, spécialement la terre de Judée. Notez les versets suivants, si vous pouvez, car il faudra, si possible, un peu méditer et prier. Important cela, pour mieux comprendre cette étude. Et je répète toujours que cette série d'études n'est pas des plus simples et ce n'est pas faux de noter quelques indications bibliques. C'est même recommandé. D'abord, pour vous assurer que on ne vous raconte pas un évangile tronqué. Alors s'il vous plaît, on a dit, les terreurs de ce jugement ébranlent toute la terre, spécialement la terre de Judée, et il serait bon de noter Saint Matthieu 24, verset 16, et Saint Luc, verset 21, verset, chapitre 21, excusez-moi, verset 21. La grande tribulation, ou on peut aussi appeler cela la détresse de Jacob. Notez Daniel 12, verset 1, Saint Matthieu 24, verset 21 et 29, ainsi que Apocalypse 7, verset 14. Ensuite, vous pouvez encore noter Jérémie, chapitre 30, verset 7. Donc, la grande tribulation ou détresse de Jacob, elle fond sur l'humanité, et cela en de puissantes catastrophes, selon Apocalypse 6, verset 19. Ce sont donc les sept sceaux et les sept trompettes, Apocalypse 6, verset 11. Il y a également les sept tonnerres, Apocalypse 10, verset 4. Sans oublier les sept coupes de la colère de Dieu, Apocalypse 16. Ensuite, nous avons l'apparition des cavaliers apocalyptiques et la grande guerre mondiale. Ce sera une guerre mondiale qui dépassera tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas peu dire. Notez Apocalypse 6, versets 1 à 8 et chapitre 19, verset 21. Il y aura, hélas, la destruction de Jérusalem, Zacharie, chapitre 14, verset 2, et celle de la grande Babylone, Apocalypse 17, verset 16. L'expédition militaire des rois de l'Orient, ainsi le tumulte dans la vallée de la décision, Apocalypse 16, verset 12 à 16, et Joël, chapitre 3, verset 14. Joël. Il reste évidemment bien des détails obscurs, car nous devons être assez humbles et de ne pas prétendre que nous savons tout. La part de littéralité de certaines prophéties, il faut les prendre telles quelles, ainsi que les temps auxquels se rapportent les 70 semaines d'année de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Le rapport exact rattachant les discours de Matthieu 24 aux autres prophéties néo-testamentaires concernant la fin et ensuite le pourquoi de la destruction par l'Antichrist de la Babylone, de cette grande Babylone qui pourtant est loin d'être quelque chose qui plaise au Seigneur. Donc, cette destruction de la grande Babylone aux sept collines, et on peut bien dire qu'elle est totalement opposée à Dieu. Et malgré cela, chose curieuse, incompréhensible, l'Antéchrist la détruira. On ne comprend donc pas tout. Il y a des choses qui nous posent des questions, mais faisons confiance au Seigneur. Notez donc Apocalypse 17, verset 16. Et j'ai oublié le territoire de gouvernement de la bête et le secret de son nombre qui est 666. Notez Apocalypse 13, verset 18. La relation de la bataille décisive d'Armageddon, Apocalypse 16, verset 16, avec le jugement des nations dans la vallée de Josaphat. Joël, chapitre 3, verset 12. Tout ceci, ce sont autant d'hiéroglyphes prophétiques qu'aucun homme n'a pu déchiffrer avec une absolue certitude. On essaye, chacun a son idée. Seul l'accomplissement donnera la clé de certaines énigmes. Ce qui est certain, c'est que finalement, le coup décisif sera donné par l'apparition glorieuse du Seigneur et par la destruction des armées antichrétiennes. Apocalypse 19, versets 11 à 21, à Armageddon, la montagne de Megiddo, qui est la capitale de la plaine de Jitzréel, où il y aura le champ de bataille principal de toute l'histoire de la Judée. Ainsi, d'une manière inattendue, se réalisera le mot qu'a dit le grand conquérant Napoléon. Il a dit « Ce n'est pas à l'Occident, mais c'est à l'Orient que se décidera l'histoire finale du monde. » Deuxièmement, nous avons l'apparition du Seigneur. Il est dit « Voici, les cieux sont ouverts. Le signe du Fils de l'homme apparaît. » Saint Matthieu 24, verset 30. Le Seigneur vient. Il vient tel un cavalier monté sur un cheval blanc. Il est accompagné des armées célestes. Il est avec sa bouche où il sort une épée aiguë, ou plutôt on peut dire de sa bouche sort une épée aiguë, et il foule la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, versets 11 à 16. C'est avec un bâton de fer Apocalypse 19, verset 15, et le psaume chapitre 2, verset 9, un vêtement teint dans le sang, Apocalypse 19, verset 13, foulant la cuve du vin de la fureur, Ésaïe 63, verset 1 à 6, et noté Apocalypse 19, verset 15. Et tout cela pour battre le blé dans son air. Michée, chapitre 4, verset 12 et 13, et Matthieu 3, verset 12. Et faire la moisson avec la faucille du jugement divin. Joël 3, verset 13, et Apocalypse 14, verset 17 et 18. Je vais répéter ce passage, pardon, sans citer les indications que donnent les Saintes Écritures pour faciliter la compréhension. Donc, c'est avec un bâton de fer, un vêtement teint dans le sang. Ainsi, il foule le Seigneur la cuve du vin de la fureur pour battre le blé dans son air et de faire la moisson avec la faucille du jugement divin. C'est ainsi que réapparaîtra le Jésus de Nazareth qu'on avait méprisé. Alors, toutes les familles de la terre se lamenteront. Saint Matthieu 24, verset 30. Le jour du Seigneur sera là. Joël 1, verset 15, chapitre 3, verset 14, et Amos, chapitre 5, verset 20. Il y a des citations bibliques qui sont dans des endroits de la Bible que tous ont pas toujours l'habitude de s'y rendre. Alors je vous le répéterai encore une fois. Tout cela sera au jour de ténèbres et d'obscurité, de nuées et de brouillard. Et je voudrais vous rappeler les citations qui vont avec ce que nous avons donc entendu. Je vais répéter tout cela, puis je vous dirai les citations après. C'est ainsi que réapparaîtra le Jésus de Nazareth qu'on avait pourtant méprisé. Alors toutes les familles de la terre se lamenteront. Le jour du Seigneur sera grand et redoutable. Ce sera un jour de ténèbres et d'obscurité, de nuées et de brouillard. Alors devant le jour de son ardeur, ou plutôt ardente fureur, ils se cacheront. Oui, le monde essayera de fuir dans les cavernes, dans les fentes des rochers, dans les crues de la terre et les profondeurs de la poussière. Alors là, il y a un certain nombre de citations bibliques très importantes et je vous conseille de en noter quelques-unes si possible, parce que c'est des passages très concentrés et terriblement importants pour mieux comprendre le déroulement. Alors notez Saint Matthieu 24, verset 30, Joël 1, verset 15, chapitre 3, verset 14, Amos, chapitre 5, verset 20, Malachie, chapitre 4, verset 5, Joël, chapitre 2, verset 2, Zacharie, chapitre 14, verset 6, Ésaïe, chapitre 13, versets 9 et 13. Apocalypse, chapitre 6, verset 15. Et Ésaïe, chapitre 2, versets 19 et 21. On voit bien que, et vous comprenez mieux maintenant, que ces études sont souvent très très concentrées et toutes ces indications bibliques sont de haute importance pour aider à comprendre tout le déroulement. Les populations, ou si vous voulez, les gens, ils iront jusqu'à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, mais il n'y aura plus aucun moyen d'échapper, car le Seigneur viendra comme un éclair. Ses chars sont comme une tempête, ses yeux comme des flammes de feu, sa voix comme la voix d'un lion, et ils seront en grand nombre tous ceux que tuera le Seigneur. Bien sûr, quelqu'un qui voit dans les Saintes Écritures que le Seigneur va tuer des millions de gens se posera des questions. Comment un Seigneur plein d'amour, de compassion, peut-il faire une chose pareille? C'est pour ça que je vous conseille de noter les indications bibliques, de les relire en priant, en méditant, pour mieux comprendre. Car, à un moment donné, le Seigneur, il n'a pas le choix. Le péché de ce monde aura été beaucoup trop loin. Et il est obligé, à un moment donné, d'exécuter la sentence. Alors, s'il vous plaît, notez Saint-Luc 23, verset 30, Apocalypse 6, verset 16, chapitre 9, verset 6, Saint Matthieu 24, verset 27, Ésaïe 66, verset 15, Apocalypse 19, verset 12, Joël, chapitre 3, verset 16, Ésaïe, chapitre 66, verset 15 et 16, et Psaume 110, verset 6. Il est dit, dans une flamme de feu, donc on a compris que le Seigneur sera obligé, malheureusement. Mais n'a-t-il pas averti ce monde des centaines de fois? Revenez au Seigneur et repentez-vous. Je crois que il l'a dit des centaines de fois. Donc, je dis malheureusement, et je dois dire la vérité, le Seigneur tuera un grand nombre de gens. Il est dit dans une flamme de feu, 2 Thessaloniciens 1, verset 8, il est dit comme par une fournaise, Malachie, chapitre 4, verset 1, et Saint Matthieu, chapitre 13, verset 41 et 42. Il est dit comme avec un filet auquel nul n'échappe, Saint Luc 21, verset 35. Il est dit ainsi, une ruine soudaine les surprendra tous, 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il est même dit comme le déluge au jour de Noé, Saint Matthieu 24, versets 38 et 39, et le jugement du feu sur Sodome et Gomorre, Saint Luc 17, versets 28 à 32. C'est sur le mont des Oliviers, d'où il monta aux cieux, que le Seigneur apparaîtra à nouveau, et tout œil le verra. Toute bouche qui conteste sera fermée. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là aussi, notez les indications que je vais vous donner. Acte 1, versets 9 et 12. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Apocalypse 1, verset 7. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 30. Et encore le chapitre 22 de Saint Matthieu, verset 12. Et Philippiens, chapitre 2, verset 11. Troisièmement, nous avons la destruction de la triunité satanique. En effet, immédiatement après la mise en pièces de la puissance militaire de l'antichristianisme, vient le démembrement de son triple haut commandement démoniaque. Le Seigneur anéantira l'impie par le souffle de sa bouche et le détruira par l'éclat de son avènement, la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Le dragon, le serpent ancien, sera lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Ainsi sera rompue la triunité satanique dont la tête sera réduite à l'impuissance, tandis que les deux autres personnes subiront leur jugement final et, on peut dire, définitif. C'est le triomphe de l'agneau sur le dragon, du fils de l'homme sur la bête, de l'épouse sur la prostituée, de la divine trinité sur la triunité mensongère. Notez les indications suivantes, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, Ésaïe 11, verset 4, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 1 à 3. Maintenant, sur l'Armageddon qui est dévasté, se lève maintenant le soleil de justice porteur de guérison. Malachie, chapitre 4, verset 2. Après l'union antichrétienne des peuples, maintenant qu'ils ont été disloqués, voici venir sur la scène la communion des peuples dans le millénium. Maintenant qu'est rendue manifeste la faillite des efforts coupables de l'homme sans Dieu, voici la démonstration de ce que Dieu peut faire avec l'homme, car le chemin est libre désormais pour le royaume de Dieu. Il fallait au préalable cet événement spirituel qu'est l'enchaînement du diable. Maintenant, il reste à décider quels seront les survivants jugés qui seront jugés dignes d'entrer dans ce royaume millénaire. Tel est donc le but du jugement des nations. Quatrièmement, nous avons le jugement des nations. Oui, le Fils de l'homme jugera toutes les nations de la terre rassemblées devant lui. Il les séparera les unes d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ceux-ci iront à la destruction éternelle, et pas comme il y en a qui disent pour quelques semaines ou mois. Donc je répète, ceux-ci iront à la destruction éternelle, et ceux-là, ils iront dans le royaume préparé pour eux et préparé dès avant même la fondation du monde. Ça vaut la peine de relire ce que je vais vous indiquer. Saint Matthieu 25, versets 31 à 32, et Saint Matthieu toujours 25, versets 34 et le verset 46. Chers amis, il faut distinguer ce grand jugement des peuples avant le millénium et avant le jugement final devant le grand trône blanc. Notez Saint Matthieu 25, versets 31 à 46, Daniel 7, versets 9 à 14 et Apocalypse 20, versets 40. Non, verset 4, je répète, Apocalypse 20, verset 4, et chapitre 20, toujours d'Apocalypse, mais les versets 11 à 15. Le moment sera au commencement du royaume de gloire, Apocalypse 20, verset 4. Le lieu sera sur le sol de la vieille terre et dans la vallée de Josaphat, Joël 3, verset 12. Les personnes jugées, ce ne sont pas les morts rendus à la vie lors de la seconde résurrection, Apocalypse 20, verset 12 et 13, mais ce seront ceux qui auront survécu au jugement terrible de cette tribulation. Matthieu 25, verset 32. L'alternative, c'est ou la mort, ou l'accès au royaume messianique. Matthieu 25, verset 34 et le verset 46. D'après la loi de la perspective prophétique, on peut penser que les deux jugements sont pourtant présentés en un seul tableau et en une seule image puissante, de même que la première et la seconde venue du Christ apparaissaient aux prophètes de l'Ancien Testament. Elles leur apparaissaient comme une seule et grande étape de l'histoire eschatologique. Notez Ésaïe 61, versets 1 à 3, et Saint Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Dans les prophéties du Seigneur, la résurrection qui précède le royaume et celle qui vient après se combinent en une seule prophétie sublime, sans aucune distinction d'époque. Distinction que nous trouvons néanmoins sous la plume des apôtres Paul et l'apôtre Jean. Notez les indications bibliques suivantes. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Saint Luc 4, versets 18 et 19. Saint Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Daniel, chapitre 12, versets 2 et 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 23 et 24. Et Apocalypse 20, verset 5 et le verset 12. Cinquièmement, nous avons l'établissement du royaume. Tout cela constitue l'épiphanie de sa parousie. C'est l'éclat de son avènement. C'est le triomphe du crucifié. C'est la manifestation de sa gloire et l'apparition de son royaume. Ses anges l'accompagnent, ainsi que ses rachetés. Il sera admiré en tous ses saints, et toute la terre le servira. Il régnera sans opposition, car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Notez les indications suivantes. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Matthieu 26, verset 64. 1er Épître de Pierre, chapitre 4, verset 13. Saint-Luc, chapitre 19, verset 11. Saint-Matthieu, 25, verset 31. 2 Thessaloniciens, 1, verset 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Et Jude, verset 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Psaume 102, verset 23. Daniel, chapitre 7, verset 14. Et Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Et chapitre 1, verset 5, comme comparaison. Il y a beaucoup à méditer et prier. Il y a beaucoup. Ce sont des véritables études très profondes. Et si je vous donne toutes ces indications bibliques, c'est pour que vous puissiez constater qu'on ne vous transmet rien d'autre que les vérités de la sainte parole de Dieu. Le royaume qu'il apporte n'est pas un royaume terrestre, mais c'est une création céleste. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi il ne vient pas progressivement, mais il vient par la mise en pièces des autres royaumes. Ce n'est pas le résultat de l'effort humain, mais c'est un don de Dieu. Notez Saint-Luc, chapitre 19, verset 12, Daniel, chapitre 7, verset 13 et 14, encore Daniel, chapitre 2, verset 34 et les versets 44 et 45. Vu du dehors, c'est une pierre insignifiante qui provoque l'écroulement d'une statue imposante. Et elle devient ensuite une grande montagne qui remplit toute la terre. Notez Daniel, chapitre 2, verset 34. Saint Matthieu, verset 21. Non, Saint Matthieu, chapitre 21, verset 44. Donc j'ai dit Daniel 2, verset 34. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 44. Et ajoutez Daniel 2, verset 35 et les versets 44 à 45. On a dit, premièrement, on a vu la vue du dehors, Maintenant, nous regardons la vue du dedans. La vue du dedans, c'est le royaume du Fils de l'homme, par lequel, pour la première fois, est élevé au trône de l'histoire internationale une véritable humanité dans le sens des Saintes Écritures, c'est-à-dire une humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notez Genèse chapitre 1 verset 27, Daniel chapitre 7 verset 13, Saint Matthieu chapitre 26 verset 64. Et maintenant, vue d'en haut. Vue d'en haut, c'est le royaume céleste qui, descendant des cieux, apporte dans ce monde la nature céleste et la joie céleste. Donc, à tous égards, c'est bel et bien ce que nous en attendons tous. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu préparé dès le commencement. Saint Matthieu 25, verset 34. Le royaume de Dieu désiré au long des âges. Saint Matthieu 6, verset 10. Le royaume de Dieu fondé sur Christ. Saint Jean, chapitre 18, versets 36 et 37. Le royaume de Dieu, prêché par ses disciples, notez Saint Luc, chapitre 10, versets 8 et 9, Actes, chapitre 20, verset 25, et le chapitre 28, toujours de Actes, verset 31. Le royaume de Dieu, attendu, de la création, Romains 8, verset 19. Le royaume de Dieu est enfin établi sur cette terre, Apocalypse 11, verset 15, et chapitre 19, verset 6. Le royaume de Dieu, pour conduire tous à la nouvelle création, Apocalypse 21, chapitre 21 et le chapitre 22. Ce que nous avons dit des jugements comme des deux venues du Christ et des résurrections doit être dit aussi du royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire le millénium, et du royaume de gloire sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. La prophétie biblique les présente souvent en une seule image. Il faut donc se garder, si possible, de toute vue unilatérale. Le royaume messianique n'est pas le but dernier de l'attente prophétique, mais c'est la première étape sur le chemin de la perfection, pareil au vestibule principal, par exemple d'un palais royal. Chers amis, avant de terminer cette courte étude, j'aimerais dire quelques mots à propos des 70 semaines de Daniel. Il existe deux principales tendances parmi les exégètes au sujet des 70 semaines d'années de Daniel. La première interprétation les rattache à Christ et à son œuvre de salut. La seconde à l'Antichrist et à sa fin. Voyons tout d'abord la première interprétation. Depuis la sortie de l'édit de reconstruction de Jérusalem, soit à partir de la 7e année d'Artaxerxe le Perse, en 457 avant Jésus-Christ, il y a eu 7 semaines littérales. On dit aussi septaine d'années jusqu'au rétablissement de Jérusalem. Une longue période de 62 semaines, 434 années, s'écoule ensuite sans beaucoup de précision. Ensemble, ces 7 et 62 semaines font 483 années à compter depuis l'année 457 avant notre ère. Ceci nous amène à l'année 26 après Christ, c'est-à-dire exactement l'année du baptême de Jésus au commencement de son ministère public. Saint-Luc 3, verset 1 jusqu'au verset 55. On se rappellera en effet que Dionysius Exiguus, au VIe siècle, a montré qu'il faut reculer la chronologie chrétienne de 4 à 5 ans. Hérode, le meurtrier, était mort 4 ans avant l'an 1. Alors donc, commencerait la 70e semaine et avec elle l'œuvre de rachat. L'expiation du péché serait réalisée, le salut éternel amené et la promesse scellée. Après les 69 semaines, donc à l'intérieur de la 70e semaine, un saint messie est ôté sans qu'il soit coupable. Daniel 9, verset 26. Mais par là, il renforce l'alliance avec beaucoup, les croyants, mettant ainsi fin au sacrifice et au service des offrandes de l'Ancien Testament par sa mort sur la croix, après 3 ans et demi d'action publique. Ainsi, au milieu de la semaine, cesse, du point de vue divin, le sacrifice de l'Ancien Testament, verset 27 de Daniel chapitre 9. Dans la période qui suit, pendant environ 3 ans et demi, le Christ exerce encore un ministère particulier envers Israël par l'Esprit Saint jusqu'à ce que, par la lapidation d'Étienne, Israël ait rejeté ce message divin. Ce serait l'explication de la seconde moitié de la 70e semaine. À quelques détails près, c'est là ce que pensaient d'éminents commentateurs tels que de nombreux pères de l'Église, tels que Luther, et parmi les plus modernes, Hengstenberg, Oberlin, Hevernick. Mais voici la deuxième interprétation. Écoutez bien. La 70e semaine se rapporterait plutôt à la période de l'Antichrist. Entre la 69e et la 70e, une longue période interminée, indéterminée, excusez-moi, marquerait le temps de l'Église, qui est considérée comme un mystère ou un secret intercalé dans la perspective prophétique. Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27. Parlons d'abord de l'extirpation du Messie, verset 26, puis de la destruction de Jérusalem, verset 26. Ensuite, de la guerre et de la dévastation jusqu'à la fin, verset 26 encore. Et les événements de la 70e semaine étant mentionnés immédiatement après, et ses commentateurs placent donc la 70e semaine après la destruction de Jérusalem. La vie terrestre et l'œuvre du Messie ne sauraient donc être envisagées ici, mais bien plutôt le temps de la fin dont il est précisément question juste avant. Celui qui fait alliance avec plusieurs serait donc l'Antichrist, concluant une alliance mensongère avec les Juifs renégats présents en Israël à la fin des temps, et il va la casser, la rompre. Rappelez-vous, Hitler a fait la même chose. Il va rompre cette alliance après 3 ans et demi, c'est-à-dire des temps, 3 ans et demi, on a bien dit, c'est-à-dire au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine. Alors, un second Antiochus Épiphanie, mais ça sera beaucoup plus terrible. Et là, l'Antéchrist abolit le sacrifice et l'offrande. Il vaudrait la peine de répéter cela, parce que c'est important. Celui qui fait alliance avec plusieurs serait donc l'Antichrist, concluant une alliance mensongère. C'est bien son truc à lui. Une alliance mensongère avec les Juifs renégats, présents en Israël à la fin des temps, et qui va la rompre, cette alliance, après 3 ans et demi, c'est-à-dire exactement au milieu de la semaine. Alors, un second Antiochus Épiphanie, mais beaucoup, beaucoup plus terrible, aura lieu, et il abolit le sacrifice et l'offrande. Et là, notez tout de même, Daniel 8, verset 11, Daniel 11, chapitre 31 à 36, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, Apocalypse 13, verset 7, après les 1290 jours, il va dresser l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Et notez Daniel, chapitre 12, verset 11, chapitre 11, verset 31, et Saint Matthieu 24, verset 15. Je dis encore une fois, il va dresser l'abomination de la désolation dans le lieu saint, suscitant ainsi la dévastation jusqu'à ce que le tribunal divin le saisisse et l'anéantisse. Ainsi l'explique là aussi, avec quelques divergences de détails, bien des commentateurs tels que Hippolyte, et parmi les modernes, Schofield, Gebelein, Darby, Johannes de Heer, etc. La relation qui unit les prophéties de Daniel à celles de l'Apocalypse est donc toute différente suivant que l'on adopte l'une ou l'autre de ces deux interprétations. Un exposé complet, vous le comprendrez, dépasserait de loin le cadre de notre étude d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs et chers amis, demain matin, Dieu voulant, nous aurons l'étude numéro 14 et le titre sera « Et sa réalité historique », c'est-à-dire le royaume messianique et sa réalité historique. Pour l'instant, si vous le permettez, j'aimerais vous donner quelques enseignements et quelques encouragements. Et ensuite, nous ferons une petite prière. Le Seigneur est là. N'ayez donc pas peur. Êtes-vous vraiment dans une attitude d'absolue confiance devant lui? Il est un Dieu puissant, en même temps qu'un ami, un ami à la fois si complètement humain et si complètement divin. Confiez-vous seulement, le Seigneur ne peut pas et il ne veut pas vous faire défaut. Sachez qu'en elle-même, certaines de vos activités, elles n'ont au fond aucune espèce de valeur. Mais lorsque l'inspiration vient de l'Esprit Saint, tout prend de la valeur, qu'il s'agisse des choses en apparence les plus insignifiantes ou, bien au contraire, les plus importantes. Cessez donc d'agir par vous-même. N'ayez pas d'autre choix que celle de Jésus-Christ, ni d'autre volonté que la sienne. Jésus-Christ ne dépend lui-même d'aucune source d'approvisionnement pour vous procurer tout le nécessaire, et son aide, matérielle ou autre, peut même vous parvenir par les moyens les plus divers. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Prions. Nous fléchissons les genoux devant toi. Oui, Seigneur. Nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous abandonnons entre tes bras, notre Père. Nous voulons croire en toi. Nous voulons te servir. Rien n'est certitude en ce monde, sinon ta sainte volonté. Rien ne nous peut sauver que ta grâce éternelle. Aide-nous à te rechercher avec plus de zèle, à observer tes commandements avec plus d'exactitude, à pratiquer un amour plus sincère et plus vigoureux. Nous plaçons devant toi, Seigneur, ce qui nous oppresse et nous inquiète, tels que nos soucis, nos désirs, nos espoirs pour nous et pour nos proches. Nous plaçons devant toi les besoins des pauvres et des malades, des abandonnés et des persécutés, de ceux qui doutent et de ceux qui combattent. Nous espérons en toi, notre espérance est en toi, totalement fixée, et nous te donnons ce que nous sommes et ce que nous avons. Remplis-nous de ta grâce. Maintiens-nous dans ta main. Conduis-nous par ton esprit et donne-nous ta paix et ta force par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Chers amis, merci pour la peine que vous vous donnez à écouter ces études qui sont loin d'être toujours faciles, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir.